La seconde dans Matthieu, au chapitre 16, les quatre premiers versets. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps ? Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Seigneur, ta parole est source de vérité. Fais-nous grandir dans ton royaume par ta vérité. Amen. Pour ceux qui étaient là, la semaine dernière, nous parlions de regarder vers l'avenir pour avancer libre du passé, libre de notre passé. Avancer avec une espérance vers notre destinée. Il y a 15 jours de ça, nous abordions le livre, le petit livre étrange du prophète Jonas. Et aujourd'hui, c'est un peu les deux thèmes qui se retrouvent dans notre passage d'aujourd'hui. Seigneur, demande à Jésus donc quelques pharisiens et sadducéens, fais un miracle pour nous, un miracle du ciel, un signe spectaculaire, afin que nous soyons convaincus et que nous puissions croire à ce que tu dis. Finalement, un peu l'attente caractéristique de tous les hommes, non pas la foi, mais la vue. C'est tellement plus facile, tellement plus confortable, tellement plus rassurant. Non pas la confiance, mais la prétention de savoir et d'avoir des évidences. Autrement dit, la volonté de transformer l'Évangile en un savoir cadré, constatable, qui ferait l'économie de toute foi. Fais un miracle pour nous et on croira en toi, comme on croit que la terre est ronde. Alors avec la distance et le temps qui nous sépare du moment où ces paroles ont été échangées, on pourrait être tenté de mal juger peut-être ces pharisiens et ces sadducéens, de les juger un peu sévèrement. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas souvent un peu la même demande à Dieu ? Quand notre chemin personnel ou familial devient lourd, quand la prière semble s'écraser sur les parois d'un ciel vide, quand les solidarités les plus basiques, les solidarités sociales, professionnelles, familiales, ecclésiales même, semblent s'effilocher, dans ces moments, n'arrive-t-il pas que notre foi chancelle ? Que nous nous posions des questions et qu'au fond de notre cœur, une demande comparable à celle des pharisiens s'ébauche en nous. Quand on voit l'état du monde, entre ceux qui abîment la planète sans aucun scrupule, et les fous qui prétendent servir Dieu en avilissant ou en massacrant tous ceux qui ne pensent pas comme eux ou ne croient pas comme eux, n'avons-nous pas envie d'interpeller Dieu une bonne fois pour toutes, lui dire « mais vas-y, produis un signe, fais quelque chose, sors-nous de là ». Voilà, dans ces moments un peu intenses de notre parcours et de notre parcours humain, il y a ces moments où on a terriblement besoin de quelque chose comme ça. Et en plus, au passage, ce serait un signe, bien sûr, où on pourrait repérer quelque chose qui se passe par la vue et non plus tant par la foi. Et ça nous permettrait, du coup, de vérifier qu'on ne se bat pas pour rien. Ça nous permettrait de vérifier que Dieu existe. Ça nous permettrait de vérifier que ça vaut encore la peine de mettre toute notre force, toute notre énergie dans le combat d'amour de l'Évangile. Alors oui, on est tenté, probablement, d'avoir cette même demande. Et de manière étonnante, Jésus ne refuse pas de montrer un signe du ciel à ses interlocuteurs. Il ajoute aussitôt, en substance, ce signe. Il est déjà là, au milieu de vous, et vous ne le voyez pas. Pourtant, quand il s'agit de choses non essentielles, eh bien, vous savez observer, en tirer les conclusions qui s'imposent. Si le ciel est rouge du côté ouest, vous savez qu'il y a... Il va faire beau demain. Au contraire, si le ciel est sombre, rouge sombre le matin, vous savez que voilà, l'orage n'est pas loin et qu'il va falloir rentrer les récoltes, protéger les troupeaux, etc. Déjà, en tout cas, par cette réponse, par cette comparaison, Jésus semble dire trois vérités à ses religieux, et peut-être écoutons-les, parce que justement, ce sont aussi peut-être des vérités pour notre temps. Pour exprimer la première, Jésus le fait sous la forme d'une demande. Pour ces choses importantes, certes, mais non vitales, vous savez discerner les signes et vous savez en tirer des conclusions, comme le médecin observe les symptômes d'un malade et repère ainsi la maladie la mieux cachée en lui. Pourquoi déployer une telle sagesse, un tel savoir, une telle habileté pour des choses secondaires, même si elles sont importantes, et êtes-vous incapable de lire les signes du ciel quand il s'agit de l'essentiel, du destin même de votre vie, de ce qui, en vous, est une question profonde, vibrante, vitale? Réfléchissez à cette question et à ce que pourrait être votre réponse pour vous-même. Voilà pour la première. Pour leur exprimer une seconde vérité, Jésus les met peut-être en garde sur la notion d'espace dans lequel il case Dieu. Vous demandez un signe venant du ciel, sans discerner que ce signe est là, devant vous, à ras de terre. Si votre religion vous garde le nez en l'air, à regarder et à scruter le ciel en ignorant ce qui se passe sur terre et ce qui se passe autour de vous, vous vous égarez. Ce signe que vous cherchez, il est là. Enfin, Jésus cherche à leur dire une troisième vérité, cette fois concernant le temps. Il veut peut-être leur dire, par cette comparaison qu'il utilise, que leur préoccupation à scruter le ciel sans cesse pour savoir comment sera demain les empêche de profiter d'aujourd'hui et de voir, de comprendre, de discerner ce qui est en train de se passer ici et maintenant, au milieu d'eux, autour d'eux, parmi eux, devant eux. Comme le dit dans ce même évangile Jésus à un moment donné, je ne sais plus ce chapitre-là, il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous entendez ces versets? C'est d'une telle sagesse. Et, ajoute encore Jésus à l'intention de ses interlocuteurs religieux, il y a un signe qui est déjà là et qui, à vrai dire, n'a jamais cessé d'être là et qui ne cessera jamais d'être donné parmi vous. C'est le signe de Jonas. Et pour bien montrer l'importance que Jésus attache à ses paroles, Matthieu en fait la conclusion de ses propos. Le texte dit, sur ces mots, il les quitta et s'en alla. Le signe de Jonas. La réponse de Jésus, je trouve, est un peu lapidaire quand même, et on peut se demander ce que ses interlocuteurs ont pu comprendre, en tout cas, même pour nous, je trouve que ce n'est pas évident à saisir. Où est finalement le miracle dans le livre de Jonas? Dans l'épisode du poisson qui engloutit le prophète, le garde 3 jours dans son estomac avant de le redéposer sur le rivage? Certains évangélistes voient dans cet épisode l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, Mais voilà, en disant ça à ces pharisiens ce jour-là, qu'auraient-ils compris avant la mort et la résurrection de Jésus ? Alors le miracle serait dans d'autres aspects extraordinaires du texte, comme peut-être ce petit arbre, ce ricin, que Dieu fait pousser en une nuit pour donner de l'ombre à son prophète. Mais voilà, on sent bien en le lisant qu'on est encore dans le domaine de l'anecdote et qu'il y a quelque chose de superficiel là, qui n'est pas forcément ce que nous avons à retenir de ce signe-là. Non, comme la vérité, le miracle de Jonas doit être ailleurs. Alors c'est peut-être dans le fait que la parole de Dieu est prêchée malgré tout. Et tout, on peut l'écrire en énorme. Malgré Jonas qui cherche à fuir sa mission, malgré les matelots qui prennent Jonas et le jettent par-dessus bord, malgré le poisson qui aurait peut-être bien voulu digérer l'homme de Dieu, malgré cette prédication à faire dans une grande ville, méchante en plus, malgré l'accumulation de luxe, de débauche et de violence à Ninive, qui aurait dû pousser normalement ses habitants à la surdité spirituelle. Oui, le signe, le miracle, c'est que malgré tous ces obstacles, la parole de Dieu est annoncée et que cette prédication porte du fruit et suscite une réponse. Dès le premier jour, tous les habitants ninivites, et même le petit et le gros bétail, répondent à cette prédication, ils se convertissent, ils changent de regard et d'attitude. Alors en commençant cette méditation, j'ai fait référence à la notion d'espérance liée à la parole de Jésus à propos de ce signe de Jonas. Alors voici en quoi espérance il y a. Ce signe de Jonas, nous pouvons le discerner déjà par ce miracle d'une parole née dans un petit lieu improbable à l'autre bout de la Méditerranée, un petit pays tellement petit de l'Empire romain, porté par des gens socialement insignifiants, là aussi des petites gens, et qui pourtant va faire basculer le colosse énorme politique de l'Empire de Rome. Le miracle de Jonas, c'est aussi le réveil de la prédication au XVIe siècle, prédication de l'Évangile, à partir d'un coin perdu de l'Allemagne, et la réponse d'une foule entière à cette prédication. Le miracle de Jonas, en l'an 2021, à Londres, eh bien, c'est peut-être que l'Évangile continue à y être prêché malgré les épreuves du temps, malgré Brexit et pandémies, malgré les facilités techniques, malgré la fascination pour les faux dieux, malgré la dispersion des idées. L'Évangile est toujours proclamé. Des hommes et des femmes changent de regard encore aujourd'hui. Ils changent leur manière de comprendre Dieu, de comprendre le monde, de se comprendre eux-mêmes d'ailleurs aussi, et se rassemblent encore dans une église comme celle-là, où pourtant on ne distribue plus ni bonheur, ni honneur, ni argent, ni bénéfice, mais au contraire, où une parole immobilise les énergies et la réflexion, et où on invite plutôt à la dépense et à l'effort pour aller chercher cette perle de grand prix. Il est là le miracle, le signe auquel Jésus renvoie, auquel il fait référence, le prodige qui devrait conforter notre foi à travers le temps et à travers les circonstances. Dieu veille à ce que la prédication de l'Évangile ne cesse pas. Et sous prédication de l'Évangile, il ne faut pas entendre ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire à partir d'une chaire, commenter un passage biblique. Non, il s'agit de tout ce qui se vit par vous, par les uns et les autres, à l'extérieur d'ici. Ce qui fait prédication pour le monde, c'est votre attitude, c'est l'Évangile vivant en vous, vers le monde. Et c'est là qu'on peut dire et qu'on peut entrer en espérance, qu'on peut se charger de ce mot-là. Quand on peut penser que tout est perdu, eh bien un homme, une femme se lève et recommence à témoigner. quand l'Église pourrait avoir tendance à s'enfoncer dans la superstition et à perdre de vue et à oublier le centre de sa mission, un réformateur se lève. L'histoire de l'Église est sans cesse traversée comme ça de réveil, de nouveaux départs, de relance, au moment même où la situation paraissait désespérée. Le voilà le miracle de Jonas, le signe que nous demandons, le prodige humainement inexplicable qui devrait fortifier notre foi, relancer notre combat, regonfler nos voiles d'un souffle d'espérance et nous donner un regard serein sur l'horizon qui se dégage devant nous. Voilà peut-être le signe à recevoir pour nous ce matin. Encore un mot, l'expression signe de Jonas renvoie alors certes à cette prédication ininterrompue d'un évangile qui atteint son but, mais elle renvoie aussi au Saint-Esprit. En hébreu, le mot Jonas ne désigne pas que le nom propre d'un prophète, mais il signifie aussi la colombe, mot pour qui Jésus était vraiment important puisqu'il était associé au moment de son baptême où l'Esprit-Saint se manifeste à lui et se dépose sur lui, sous la forme, on va dire, visible, le signe visible d'une colombe. Oui, la prédication de l'Évangile, et c'est peut-être ça qui est très rassurant, elle n'est pas uniquement efficace et due à des beaux discours ou à des actions héroïques de quelques exploits humains, de quelques-uns. Heureusement que ça ne marche pas comme ça, mais une puissance discrète accompagne, soutient, inspire le témoin, prépare les cœurs à recevoir. Et quand il écoute la parole, ce qu'on est en train de faire là en ce moment, eh bien une puissance ouvre les Écritures, ouvre l'esprit aux Écritures, on pourrait dire ouvre les cœurs aux Écritures de l'auditeur, pour que la prédication puisse venir rejoindre toute la personne et ne soit pas juste flottante à tout vent de doctrine, comme dit l'Épître. Une véritable présence vivifiante est à l'œuvre pour ouvrir les cœurs des hommes et déboucher leurs oreilles juste pour qu'ils changent de regard, pour qu'ils puissent se déplacer dans leur foi. Eh bien, c'est cette puissance que le Nouveau Testament appelle le Saint-Esprit, celui qui rend le Christ vivant et agissant parmi nous. Enfin, et ce sera là notre conclusion ce matin, non seulement nous pouvons être reconnaissants et admiratifs de constater que l'Esprit de Dieu a pris soin de la prédication dans cette Église de Londres à travers les siècles, mais nous sommes assurés par ce signe de Jonas qu'il continue à veiller à ce que son Évangile y soit enseigné et qu'il y veillera toujours par sa bienveillance et discrète présence. Le signe de Jonas est toujours actif. Nous pouvons vraiment être dans la gratitude pour ce qu'il fait dans nos communautés, d'une manière générale, et nous pouvons aussi nous réjouir de ce qu'il fait la même chose dans le cœur de chaque âme croyante que nous sommes. Ce signe de Jonas, si constant à travers les siècles, est un appel à l'espérance pour chacune et pour chacun d'entre nous, un signe de la fidélité du Christ qui, sans cesse, donne sa prédication dans l'Église, au monde et dans nos cœurs. Oui, mes amis, un passage de l'Évangile plein d'espérance. Un signe qui sonne comme une promesse pour tous les humains, un miracle du ciel, sans cesse renouvelé, surtout pour ceux qui veulent bien prendre le temps. Le temps de l'observation, de l'étude, de l'écoute, de la réflexion, et un temps comme celui-ci, de la méditation. Alors que l'Esprit nous donne à tous de toujours trouver ce temps. Amen.